Il est 7h.
La décision qui a été prise, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite si l'avis de l'EMA le permet.
Principe de précaution et transparence. En attendant la décision de l'Agence européenne des médicaments, des considérations plus politiques que sanitaires à l'origine de la suspension du vaccin AstraZeneca. Explication dans un instant et conseils pratiques aussi pour celles et ceux qui ont déjà reçu une injection. Face à l'épidémie, de nouvelles décisions attendues cette semaine pour l'Île-de-France où un quart des patients en réanimation sont désormais accueillis dans des établissements privés. Dans ce journal aussi, une nouvelle prime Macron. Le report probable demain du procès de l'affaire Big Malion et des cambriolages pas si anodins sportivement et psychologiquement dans le monde du football. Juste après ce journal, l'éclairage écho, Nicolas Barré.
Et rien ne va plus entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Bruxelles accuse Londres de ne pas respecter le traité de Brexit et menace de sanctions financières.
Vincent Hervoy avec le regard international, l'édito sport de Virginie Fulpin, puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, pour l'expression du jour, on n'aura pas le cafard, mais je vais vous raconter d'où ça vient et pourquoi on dit ça.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec vous Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et c'est donc un avis d'ores et déjà très attendu, celui de l'Agence européenne des médicaments sur le vaccin AstraZeneca et ses possibles effets secondaires. Elle se prononcera jeudi. D'ici là, plus aucune dose fournie par le laboratoire ne sera utilisée dans 7 pays européens, dont la France.
Alors pourquoi cette décision du président hier, alors que la veille, Jean Castex avait dit sa confiance dans cette formule? On a besoin de votre éclairage, Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Qu'est-ce qui explique ce revirement ?
Alors sur le plan de la fréquence des effets secondaires, rien de plus. Certaines personnes ont présenté des troubles de la coagulation, mais ils sont rares, de l'ordre de 1 cas pour 160 000. Et l'Agence française de sécurité du médicament l'a confirmé hier soir. À ce jour, peu de cas ont été signalés en France. On ne déplore chez nous aucun décès et surtout aucun lien de cause à effet n'est établi entre ces thromboses et la vaccination. Alors effectivement, pourquoi stopper la campagne dans ce cas-là ? Eh bien parce que c'est une décision politique, celle d'appliquer un principe de précaution maximum comme le font d'autres pays, celle d'assurer une totale sécurité et transparence de la campagne vaccinale, explique-t-on dans l'entourage d'Olivier Véran. En faisant cela, l'exécutif espère prévenir tout mouvement de défiance envers ce vaccin d'AstraZeneca qui reviendra dans la course si l'Agence européenne du médicament parvient à lever les doutes.
Rassurer donc, on l'entend bien Anne, mais justement celles et ceux qui ont déjà reçu une injection d'AstraZeneca, plus d'un million de personnes, que doivent-elles faire aujourd'hui ?
Eh bien, rien de spécial. Les autorités sanitaires les invitent à se rapprocher de leur médecin en cas d'effet indésirable, mais comme pour tout autre vaccin, rien de plus. Car on rappelle encore une fois qu'à ce jour, la suspension est un principe de précaution. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, qui doit aussi se réunir aujourd'hui, l'OMS, continue de recommander la vaccination avec AstraZeneca.
Explication d'Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Autre décision attendue cette semaine, celle qui concernera l'Île-de-France où l'on recense aujourd'hui plus de patients en réanimation que lors du pic de la deuxième vague en novembre dernier. Un reconfinement n'est pas exclu. En attendant, les évacuations sanitaires se poursuivent et les cliniques privées sont mises à contribution. Lamine Garbi est le président de la Fédération de l'hospitalisation privée.
Sans nous, ce serait encore plus difficile. 25% des patients actuellement en réanimation en Île-de-France sont pris en charge par les cliniques privées. La montée en puissance des cliniques privées remonte à environ une quinzaine de jours. Nous étions à 10% de prise en charge et il est vrai que depuis lundi dernier, sous injonction de l'ARS, nous avons déprogrammé 40% de nos blocs opératoires pour justement libérer de la place en service de réanimation. Aujourd'hui, nous avons 90 places de réanimation disponibles, donc nous avons encore de la place. S'il faut, demain, nous trouverons des lits supplémentaires, soit par de la déprogrammation, soit par l'ouverture de places supplémentaires surnuméraires. Ce n'est pas à souhaiter car ce n'est pas extensible et surtout, nous sommes, comme les collègues du public, en difficulté pour avoir la capacité de mobiliser des médecins et des infirmières.
Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée avec Romain Oquet. Des investigations lancées à Lannion en Bretagne sur un nouveau variant du Covid. Il s'agira notamment d'étudier l'impact de ce variant sur le diagnostic. Plusieurs malades atteints présentaient des tests PCR négatifs.
Elle avait vu le jour en 2019. La prime Macron reconduite pour cette année.
Annonce hier du gouvernement à l'issue de la conférence du dialogue social. Une prime de 1000 euros pour tous les bas salaires et notamment Olivier Samin pour celles et ceux qui ont été particulièrement exposés depuis le début de la pandémie.
Oui, cette prime devra profiter bien sûr aux travailleurs de la deuxième ligne, les caissières, les manutentionnaires, les agents d'entretien, les chauffeurs de poids lourds, les ouvriers du bâtiment, les aides à domicile qui sont restés sur le pont au moment du premier confinement. Mais Jean Castex veut qu'elle soit plus largement distribuée. Tout le monde pourra espérer la toucher, en tout cas en dessous d'un niveau de salaire qui reste à définir. Comme la prime Macron de 2019, elle ne sera pas soumise à l'impôt. Elle sera exonérée de charges sociales et c'est l'employeur qui aura la main. C'est lui qui déterminera le montant dans un plafond de 1 000 euros qui pourra aller jusqu'à 2 000 euros s'il a conclu préalablement un accord d'intéressement ou si une négociation s'est engagée au niveau de la branche ou de l'entreprise pour revaloriser la grille de rémunération et les conditions d'emploi des travailleurs de la deuxième ligne. Alors il reste encore un certain nombre de points à préciser, disait hier soir le ministère du Travail, mais l'objectif c'est que cette prime soit versée avant la fin de l'année.
Olivier Samin, le gouvernement qui a aussi annoncé la prolongation jusqu'en mai des aides à l'embauche des jeunes. Ce sera jusqu'à la fin de l'année pour les aides au recrutement d'apprentis.
Les étudiants, eux, comptent bien se faire entendre en manifestation aujourd'hui, notamment à Paris, contre la précarité renforcée encore par la crise sanitaire.
Eux n'en sont pas encore là. Reste encore pour les terminales le passage du bac, nouvelle version, avec un grand oral décisif prévu pour la fin du mois de juin.
Sauf qu'avec la crise, eh bien, ces élèves n'ont jamais été confrontés à ce genre d'épreuve difficile. Difficile de se projeter, l'heure est donc déjà aux préparatifs et aux conseils avec Virginie Riva pour Europe 1.
Pour ces terminales, l'épreuve du grand oral pourrait être la seule épreuve orale de toute leur scolarité, leur bac français ayant été annulé l'an dernier. Alors, forcément, le stress commence à monter. L'épreuve durera en tout 20 minutes avec un court exposé portant sur les spécialités, un échange et enfin des questions sur le projet professionnel. Clara a débuté les premières séances d'entraînement dans son lycée Jules Ferry à Paris.
Je suis quand même angoissée avant de passer à l'oral. Déjà, à la dernière minute, j'ai plus envie de passer, même si je suis super bien préparée. J'ai les mains moites, je tremble un peu. Enfin, souvent, il y a beaucoup de mots du quotidien qui sortent, genre, c'est un mot qu'on dit tout le temps.
Pas d'inquiétude, répond l'avocat Bertrand Perrier, spécialiste de l'éloquence, qui dévoile quelques trucs.
Perdre ses moyens, c'est un risque. Si ça arrive, c'est pas un drame non plus. Il faut juste l'avouer. Et en disant « ça n'est pas très facile pour moi », on a minoré de moitié ce stress. L'éthique de langage, tout le monde en a. En réalité, il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail en amont qui permettra de les combattre. Ces tics seront plus rares, ils ne disparaîtront pas nécessairement, mais ils n'entacheront pas trop votre propos.
Cette épreuve, c'est une petite révolution dans l'éducation française, poursuit Bertrand Perrier. Elle comptera 10% de la note finale du bac.
Un conseil signé Virginie Riva pour Europe 1. Au moins 138 manifestants pacifiques tués ces 6 dernières semaines. Le bilan de la répression en Birmanie, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Faute d'Internet, la comparution de l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi a été reportée à la semaine prochaine.
7h08 sur Europe 1, c'est une affaire qui a dynamité la droite française, l'affaire Big Malion, soupçon de financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2012. Le procès devait ouvrir demain, mais les prévenus pourraient ne faire qu'une apparition.
Oui, Chloé Triomphe, la défense a demandé en effet un report des audiences à cause du coronavirus.
Oui, ce sont les avocats de l'un des personnages centraux de ce dossier, Jérôme Lavrieux, qui sont affectés par le virus et sans défense, on voit mal comment ce dernier, qui était à l'époque le directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy et le directeur de cabinet de Jean-François Copé à l'UMP, pourrait comparaître durant les 5 semaines prévues. Jérôme Lavrieux était au cœur des discussions pendant la campagne entre le parti et les sociétés prestataires qui avaient accepté de réaliser de fausses factures. Ces deux avocats sont donc positifs au coronavirus. Et l'ensemble de la défense s'est associé à la demande de renvoi par solidarité avec leurs confrères. Le parquet ne s'y opposera pas, a-t-il déjà fait savoir. Il a même déjà proposé d'autres dates entre le 10 mai et le 24 juin pour que l'audience puisse se tenir, dit-il, dans les meilleures conditions et délais possibles. Ces options seront débattues mercredi à l'ouverture des débats en présence de tous, y compris Nicolas Sarkozy, qui avait annoncé qu'il serait présent aux audiences à chaque fois que ce serait nécessaire.
Chloé Triomphe. Ce pourrait être le premier narco-sous-marin fabriqué en Europe. Il a été saisi en Espagne, à Malaga, alors qu'il était en cours de construction. D'après les enquêteurs, il aurait pu transporter jusqu'à 2 tonnes de stupéfiants, des semi-submersibles dont l'utilisation est très courante aujourd'hui en Amérique latine.
Narco-sous-marin, ouais. Faut se figurer quand même le projet du chantier naval des trafiquants de drogue. Puis enfin, on vous parlait hier des cambriolages qui ont visé les joueurs du Paris Saint-Germain et leurs proches. Un phénomène plus courant qu'on ne le pense et qui ne vise pas que les grandes stars et les grands clubs.
Oui, et certains en gardent d'ailleurs un souvenir assez traumatisant, témoignage avec Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Ils sont trois, cagoulés, tout en noir. Voilà, c'est l'impression de voir ça dans les films.
En 2008, alors qu'il venait tout juste d'emménager près de Lille, Florent Balmont a été victime d'un cambriolage particulièrement violent en pleine nuit.
J'ai eu le fusil sur la tempe pendant bien 10 minutes. Quoi. Ma femme au sol, ma fille qui était dans la chambre aussi, qui a tout vu, mais qui a fermé la porte. On dormait les quatre dans une chambre après. On a eu un peu de sécurité dans la maison pendant quelques temps, mais à un moment donné, on ne peut pas vivre comme ça. Donc après, on a été obligé de déménager aussi, je crois, 2 mois après.
Et en Ligue 1, les cambriolages se multiplient. À Dijon, cette saison, la maison de 3 joueurs a été visitée. Le gardien de Reims a également été cambriolé. Pour contrer ce phénomène préoccupant, le club champenois propose à ses joueurs des conseils pour mieux sécuriser leur domicile et pour déjouer une filature. À Angers, la gendarmerie qui organise des rondes à l'adresse et les numéros de chaque joueur, car l'impact psychologique d'un vol est important. En 2015, alors que plusieurs de ces joueurs avaient été victimes d'un gang de cambrioleurs, Metz avait été relégué en Ligue 2.
Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h. Il est 7h11.
Europe 1, Mathieu Béliard.
C'est presque une lanceuse d'alerte ce matin, la romancière Delphine de Vigan qui publie « Les enfants sont rois, l'avènement des enfants stars » sur YouTube.
Welcome to Ryan's world.
Ryan Kaji, vous l'entendez, ce Texan a 9 ans, c'est à 9 ans, le YouTuber le mieux rémunéré de ces 3 dernières années. On parle de 29 500 000 dollars de revenus pour 12 milliards de vues de ses vidéos l'an passé. Ses enfants, leur public, les parents devenus producteurs de téléachat, entre roman policier et roman social, Delphine de Vigan se saisit de la problématique. Le tête-à-tête Europe Matin, c'est à 7h40. Tout de suite, l'éclairage écho de Nicolas Barré avant le regard international de Vincent Herouette.
Oui, il y a un nouveau gouvernement en Libye, ça fait 7 ans qu'on l'attendait. Il est corrompu, mais on se réjouit quand même.
Bon réveil à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 7h12. Et on retrouve Vincent Herouette pour son regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La Libye a un gouvernement d'unité nationale. Il a été désigné par des responsables libyens que l'ONU avait réunis à Genève. Il a obtenu la confiance du Parlement et le nouveau Premier ministre a prêté serment hier.
Oui, il faut se réjouir de l'avènement d'un gouvernement et pas 2 ou même 3 comme ces dernières années en Libye, car l'une des évidences qu'aura démontré la révolution libyenne, c'est qu'il vaut mieux un gouvernement même fragile, même médiocre et corrompu que la seule loi des milices. Le nouveau patron du pays s'appelle Abdelhamid Beba. Sous Kadhafi, il ne faisait pas de politique, il faisait fortune. C'est un notable de Misrata. Il a mission d'organiser les élections. Elles sont prévues le 24 décembre et on ne sait pas encore s'il faut croire au miracle ou si ce Père Noël est une ordure.
Il y a 5 femmes dans son gouvernement, dont l'une aux affaires étrangères et une autre à la justice.
Oui, quelle affiche tape à l'œil. En même temps, les affaires étrangères dans un pays qui n'a plus aucune souveraineté, c'est comme la justice quand les miliciens tiennent le haut du pavé. Il y a toujours en Libye un décalage, un flou entre le texte et le réel. Du temps de Kadhafi, on se demandait s'il était fou. Le gouvernement de Beba aussi, quand il a juré hier de préserver l'unité, la sécurité et l'intégrité de la Libye. Ça fait 10 ans que le pays est fracturé en 2 camps, en 3 régions, est, ouest, sud, en centaines de clans et de tribus. Il n'y a aucune sécurité, notamment pour les migrants réduits en esclavage. Et quant à l'intégrité du pays, 20 000 mercenaires et combattants étrangers bivouaquent en Libye.
Et que peut faire ce gouvernement ?
Il est entre les mains des Turcs, il a aussi des amis en Russie, on va voir s'il tente de s'en affranchir. Abdelhamid Beba est une énigme, on ne lui prête aucune conviction, d'ailleurs on ne lui prête rien, c'est lui qui achète. À Genève, on a vu les responsables libyens filmer leur bulletin de vote avant de le glisser dans l'urne, histoire de prouver à ceux qui leur avaient versé 100 ou 200 000 dollars qu'ils ne les avaient pas volés. L'achat des voix est vieux comme la démocratie. Et la démocratie, c'est tout nouveau à Tripoli. Il faut se réjouir, mais sans se faire trop d'illusions.
Un peu de patience aussi, quoi, si je vous suis bien, Vincent Herouette.
C'est ça.
Merci beaucoup. Le regard international tous les matins sur Europe 1. Il est 7h19 et dans un instant, l'édito sport de Virginie Fulpin.
Des joueurs du PSG cambriolés, ça n'est pas un phénomène nouveau, hein, mais entre ça et les menaces sur les réseaux sociaux, l'ambiance de violence autour des sportifs devient irrespirable.
Et ce sera juste avant votre rendez-vous d'histoire, plus léger, avec Stéphane Bern. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors vous le savez, les domiciles d'Angel Di Maria et du père de Marquinhos, deux joueurs du Paris Saint-Germain, ont été cambriolés dimanche soir. Pour vous, ce ne sont que des exemples de la violence à laquelle les sportifs sont de plus en plus exposés. Virtuellement ou réellement, ils sont devenus des cibles privilégiées.
La violence virtuelle, on n'a pas de mal à la trouver sur les réseaux sociaux. Je vous invite à consulter les comptes Instagram ou Twitter des têtes d'affiches du sport. Vous allez être surpris, ou pas d'ailleurs, de voir avec quelle régularité ils sont moqués, insultés, menacés aussi. Je pense à Gaël Monfils par exemple, le joueur de tennis reçoit des menaces de mort et il n'est pas le seul. Hein. On en est là, c'est si ça n'était que quelques illuminés qui passaient leurs nerfs sur leur clavier en insultant les sportifs pour tromper leur frustration. Pourquoi pas, c'est le jeu. Mais ça va largement au-delà, hein. C'est un vrai mouvement de fond, notamment à cause des paris sportifs. C'est-à-dire que tout un tas de gens ne suivent plus le sport pour la beauté des gestes, mais uniquement en fonction de ce que le résultat d'un match pourrait leur rapporter. Ce qui change tout, vous misez sur la victoire d'un sportif, il perd, donc vous perdez aussi. Et là, certains déversent leur haine envers celui ou celle qu'ils considèrent comme responsable de leur infortune. Ces paris prennent trop de place, ils conduisent certains à s'endetter dans l'espoir fou de se refaire sur un match. Et quand ça n'arrive pas, c'est catastrophique financièrement pour eux. Ils pètent les plombs et s'en prennent directement aux sportifs qu'ils voient comme la cause de leur tourment. Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond.
Les sportifs sont vus comme des machines à cash en fait.
On les voit plus comme des dieux du stade, mais comme des représentants du dieu dollar. Ils gagnent beaucoup d'argent, donc ils doivent nous en faire gagner. À force de caricaturer les footballeurs, notamment comme des milliardaires en short, à force de plus parler d'argent que de jeu quand on parle de football, on a fini par les déshumaniser presque. Si j'en juge par les nombreux commentaires que j'ai lus ou entendus depuis dimanche soir, j'ai l'impression que certains sont prêts à justifier ces actes inqualifiables sous prétexte que les victimes ont un compte en banque bien garni. Mais enfin, à quel moment on peut se dire que séquestrer quelqu'un, c'est moins grave parce qu'il est riche ? J'ai la désagréable impression que les sportifs, aujourd'hui, sont plus jalousés qu'admirés, plus vus comme des moyens de se faire de l'argent facile que comme des hommes et des femmes qui nous permettent de rêver. Alors c'est aussi à cause de leur mode de vie clinquant parfois qui est en cause. Hein. Ils ont clairement une cible dans le dos, c'est pas nouveau, mais ça prend une ampleur inconnue jusque-là.
Et c'est dit par Virginie Fulpin ce matin, l'édito sport à partager, à retrouver évidemment sur le hashtag Europe 1. Merci Virginie, il est 7h25 et nous retrouvons Stéphane Bern comme tous les matins pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand pour une raison ou pour une autre on déprime un peu, on a du vague à l'âme, on dit qu'on a le cafard. Bah, d'où vient cette expression ?
Bah, j'imagine que ça vient de cet insecte que tout le monde redoute. C'est vrai que si on a des cafards chez soi, bah, pas la joie.
On ignore souvent que cafard a une autre signification. À l'origine, cela vient de l'arabe kafir, qui désignait un mécréant, une personne peu croyante. Et au XVIe siècle, en France, le mot était utilisé dans ce sens. Sachant que Dieu est lumière, les personnes qui évoluaient dans les ténèbres ont naturellement été surnommées cafards, tout comme les insectes qui, fourbes, grandissent dans les coins sombres et agissent de façon sournoise. Le verbe « cafarder » venant finir de brosser un portrait péjoratif de l'expression. En fait, c'est Baudelaire dans « Les fleurs du mal » qui va populariser l'analogie entre l'insecte et l'état d'esprit. À propos de démons, il dit « Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'art, la forme de la plus séduisante des femmes, et sous de spécieux prétextes de cafard, accoutume ma lèvre à des philtres infâmes. » Merci Charles de nous remonter le moral. Baudelaire, à qui on doit également l'invention du spleen. D'ailleurs, c'est aussi lui qui a dit « La vie a une fin, le chagrin n'en a pas. » Voilà qui achève de nous mettre en joie.
Bon réveil à tous.
Quoi qu'il en soit, sachez qu'en allemand, on n'a pas le cafard. Mais on dit attraper des grillons. Au moins, c'est plus chantant. Et en Roumanie, on dit être tombé dans un puits à mélancolie. Voilà une autre belle perspective.
Oui, mais très poétique pour le coup, la version roumaine. On vous retrouve à 16h tout à l'heure, Stéphane, pour Historiquement Vôtre.
Oui, alors, aujourd'hui, on réunit la peintre mexicaine Frida Kahlo, le pape du pop art Andy Warhol et la starlette Paris Hilton. Leur point commun ? Des rois de l'autoportrait, parce qu'on n'est jamais mieux selfie que par soi-même.
À tout à l'heure, 16h. 7h27 sur Europe 1. Et je voulais vous faire écouter quelques notes de musique ce matin. Ah oui, vous entendez bien ce grain si particulier. C'est du live. C'était hier soir sur Europe 1. Yarol Poupeau dans le festival Back to Live que lance Émilie Mazoyer. On vous en a beaucoup parlé hier matin. Le retour des concerts tous les soirs cette semaine de 20h à 22h. Tiens, écoutez un peu Yarol Poupeau. Concert comme si vous y étiez. Ça continue ce soir, je vous le dis. Cali, Alice et moi, Eddie Depreto et Rose en concert à suivre en images aussi en Facebook Live. ça change. 7h27 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
À Mini-Vernay, vous avez froid ou vous aurez froid. Couvrez-vous. 0 degré à Nevers en ce moment. À Besançon, les Lillois à 2 degrés. Les Strasbourgeois, les Parisiens 5. 6 degrés à Clermont-Ferrand. Si vous habitez Toulouse, Rennes, eh bien 8 degrés. 9 à Bordeaux. Voilà pour quelques-unes des températures qui sévissent actuellement. Alors, la pluie s'est assagie. C'est-à-dire que nous avons un petit peu moins de giboulées. Encore qu'il y en aura sur l'Alsace, le Dijonais, la Franche-Comté, les Alpes du Nord, les Cévennes et autour de la région lyonnaise. Mais enfin, c'est vraiment le champ des giboulées s'est réduit. Alors que les petites pluies, eh bien, reviennent par le nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la région parisienne, le Berry, le Morvan. Le parapluie par obligation est presque nécessaire, le PPO dans ces régions. De la bruine sur la Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et le Massif central. Dans le sud-ouest, des éclaircies. Et sur le bassin méditerranéen, du soleil et du vent. Les températures maximales entre 9 et 15 degrés, donc pratiquement identiques à celles d'hier. Les températures, justement, vont baisser de manière assez drastique dans les jours qui viennent. Alors, nous nous dirigeons, je disais tout à l'heure, vers un temps de moins en moins pluvieux, avec le soleil qui reviendra samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi prochain, mais avec des températures plus
fraîches.
Plus froide.
Froide, on peut le dire. Ouais, j'ai envie de dire fraîche parce que j'ai envie d'y croire, mais froid.
Oui, froid.
On va avoir froid. On a gardé les doudounes, vous l'aviez annoncé. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, mon nouveau journal. Il est presque 7h30.
Le rapport bénéfice-risque du vaccin AstraZeneca est toujours considéré comme positif. Nous ne voyons pas de problème à continuer les campagnes de vaccination.
L'Agence européenne du médicament tente de rassurer les troupes alors que plusieurs pays européens décident de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca. La France en fait partie. Casse-tête en prévision à Besançon où les écoles sont menacées de fermeture. Trop de personnel éducatif sont touchés par le Covid. Dans ce journal, le Sénat se penche tout à l'heure sur l'article 24 du projet de loi sécurité globale. Et puis vous avez aimé regarder les parties d'échecs dans le jeu de la dame. Le roman qui a inspiré la série vient d'être réédité en français.
Juste après ce journal, La Touche Âme, Bertrand Chameroy. À 7h40, Delphine de Vigan qui publie Les enfants sont rois, roman qui se saisit de la question des enfants stars sur YouTube. L'édito politique de Nicolas Bétou.
Il y a un an, jour pour jour, Emmanuel Macron s'apprêtait à annoncer que la France allait s'enfermer. Il n'avait pas prononcé le mot confinement. Eh bien peut-être cette fois-ci le prononcera-t-il. En tout cas, ce n'est pas un très joyeux anniversaire aujourd'hui.
Non, ça c'est sûr. Nicolas Canteloup également avant 8h qui conseille à sa manière. L'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 aujourd'hui, le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce n'est pas une consigne du gouvernement, mais à Besançon, dans le Doubs, les écoles pourraient bientôt devoir fermer. La faute au coronavirus qui décime les effectifs du personnel éducatif. La municipalité vient déjà de fermer l'accueil périscolaire de l'une de ses écoles maternelles. La maire de Besançon, Anne Vigneault, assure faire tout son possible, mais la fermeture des écoles semble inévitable.
On est sur des chiffres qu'on n'a jamais bien sûr vécu. Et nous avons eu en 15 jours plus de 900 enfants qui ont été isolés. On a 125 animateurs qui ont été obligés d'être remplacés. C'est énorme. Mais là, on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui se disperse de façon diffuse. Donc, c'est encore plus compliqué à cerner. Ce n'est pas un cluster dans l'école. C'est des familles qui ont leurs enfants en différents endroits et du coup arrivent avec un cas Covid avéré. Si ça continue comme ça, on va être en incapacité de renouveler l'encadrement. On est allé chercher des agents volontaires, que ce soit au service sport, service espace vert, relations publiques, etc. Mais au bout d'un certain temps, on ne peut plus neutraliser les autres activités de nos services au bénéfice des écoles, donc ça devient très tendu. On réagit de demi-journée en demi-journée.
Anne Vigneault, la maire de Besançon, avec Romain Noquet. En France, le nombre de patients hospitalisés en réanimation continue d'augmenter. En région parisienne, il y en a désormais plus que lors du pic de la deuxième vague à l'automne dernier.
Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a annoncé la suspension du vaccin AstraZeneca. Une décision prise dans le sillage de l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Italie.
Une décision prise alors que dans plusieurs pays, des problèmes sanguins ont été détectés chez des personnes qui avaient reçu une dose. Pour l'instant, aucune preuve d'un danger spécifique. L'Agence européenne des médicaments se réunit tout à l'heure pour évaluer les risques du vaccin. Elle devrait se prononcer jeudi. Marco Calaveri dirige la Task Force Covid-19. Il se voulait rassurant hier au Parlement européen.
À ce stade, nous ne pensons pas que les preuves que nous avons collectées montrent vraiment l'émergence d'un nouveau risque. Le rapport bénéfice-risque du vaccin AstraZeneca est toujours considéré comme positif. Nous ne voyons pas de problème à continuer les campagnes de vaccination. En même temps, nous continuons à examiner toutes les données, particulièrement les cas mortels, pour essayer de comprendre s'il y a plusieurs cas liés à une même pathologie ou aux mêmes antécédents médicaux et pour affiner notre évaluation.
Et l'Organisation mondiale de la santé réunit son groupe d'experts aujourd'hui pour étudier la sécurité du vaccin AstraZeneca. L'OMS continue de recommander son utilisation. Dans l'actualité aussi, elle sera désormais plus petite de la taille de votre carte bancaire et dotée de propriétés biométriques. La nouvelle carte d'identité est expérimentée à partir d'aujourd'hui dans le département de l'Oise pour l'instant. Elle sera généralisée à toute la France dès cet été.
La politique à présent, c'est un texte controversé qui arrive au Sénat cet après-midi, le projet de loi sur la sécurité globale.
Et son article 24, dans un contexte toujours explosif d'ailleurs, une manifestation est prévue devant le Palais du Luxembourg. Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture à l'Assemblée il y a 4 mois. Depuis, elle a été réécrite et modifiée en commission au Sénat. Claudia Bertram.
C'est un article 24 totalement réécrit qui va être débattu. Sa version initiale, adoptée par les députés, a suscité de vives polémiques. L'article prévoyait de pénaliser la diffusion d'images malveillantes des forces de l'ordre en modifiant la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Levée de boucliers chez les journalistes et chez les parlementaires, mobilisation dans la rue. En commission, les sénateurs ont préféré ne plus faire référence à cette loi et créer un nouveau délit dans le code pénal. Un délit de provocation à l'identification. Par exemple, cela vise la publication de données personnelles sous des images qui permettent d'identifier des policiers ou des gendarmes. Mais pour les sénateurs de gauche, le compte n'y est toujours pas. Ils demandent la suppression de l'article qu'ils considèrent encore trop flou malgré sa réécriture. D'après nos informations, le gouvernement ne devrait pas s'opposer à cette nouvelle version de l'article 24. Un moyen de ne pas relancer d'interminables débats au Parlement et de mettre un point final à ce mauvais feuilleton.
L'Assemblée nationale adopte en première lecture la proposition de loi visant à protéger davantage les mineurs face aux violences sexuelles. Les députés fixent à 15 ans l'âge en dessous duquel un enfant est considéré non consentant pour un acte sexuel avec un adulte 18 ans en cas d'inceste.
Et puis on va parler du jeu de la dame, cette série Netflix consacrée aux échecs visionnés par plus de 62 millions de spectateurs dans le monde.
Oui, mais le jeu de la dame, c'est d'abord un roman publié en 1983 par l'américain Walter Trevis. Et bonne nouvelle, une nouvelle traduction française vient d'être publiée. Nicolas Caro.
Walter Trevis est un auteur de romans célèbres par leur adaptation au cinéma. L'Arnaqueur avec Paul Newman ou La couleur de l'argent avec Tom Cruise. Quand l'éditeur Oliver Gallmeister reçoit la proposition de l'agent littéraire pour Le jeu de la dame, il n'a jamais entendu parler de l'auteur. Mais le livre lui plaît et il décide de l'éditer. Entre-temps, la série Netflix est passée par là.
On avait été prévenu quelques mois avant. Mais je me suis dit, oh, une série Netflix de plus, qu'est-ce que ça va faire? Vraiment, je serais surpris que ça marche. Et puis en fait, au bureau, tout le monde l'a regardé, tout le monde en parlait. Du coup, je l'ai regardé. Et puis mes enfants l'ont regardé. Je me suis dit, c'est quand même bizarre que tout le monde en parle comme ça. Et on s'est dit, mais oui, en fait, bon, essayons de sortir le livre plus vite que prévu.
Résultat, Jacques Mayos, le traducteur, a dû mettre les bouchées doubles. Le premier tirage était prévu à 15 000 exemplaires, mais devant l'engouement des libraires, il a finalement été tiré à 70 000.
Et puis, on termine avec cette découverte, Mathieu. Des scientifiques ont identifié une météorite aussi ancienne que notre système solaire et donc plus vieille que la Terre, d'origine volcanique. Elle est issue d'une protoplanète, c'est à mi-chemin entre une planète et un astéroïde. Elle a atterri grâce au hasard d'un jeu de billard cosmique dans le sud de l'Algérie il y a une centaine d'années et elle a été trouvée en mai dernier.
Je vous demande d'imaginer un peu les étincelles de ce jeu de billard cosmique. Ces espèces de gros cailloux qui se percutent les uns les autres pour atterrir dans le désert. Merci beaucoup, Sophie Echen, c'était le journal de 7h30, il est 7h36.
Europe 1, Mathieu Béliard.
La méfiance et la suspension. Le vaccin AstraZeneca à la une ce matin, bien sûr, mais aussi la dégradation de la situation sanitaire en région parisienne en particulier. Emmanuel Macron annonce de nouvelles décisions. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le professeur Éric Combes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Tout de suite, la touche à Bertrand Chamerois et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, attendez, je vérifie que ça marche. Ça marche super, oui, parce qu'on a quelque chose à fêter aujourd'hui.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de la touchable, le regard de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Oh là là là, vous tirez une de ces tronches et oh, on sourit là, c'est jour de fête. Nous sommes le 16 mars, l'annonce du confinement, première édition à un an aujourd'hui. Je vous cache pas que je suis un peu déçu, hein. On célèbre un anniversaire, il n'y en a pas un qui a été foutu de ramener un fraisier pour fêter ça. Heureusement que je suis là, allez champagne. Un an déjà, ressenti 12, et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier, Mathieu. Avec des cheveux courts, Mathieu, tu ressemblais encore à un premier communiant. Et je me souviens très bien de ce qu'il a dit ce matin-là, il y a un an, il y a un siècle. Il y a une éternité.
Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre.
À l'époque, on pensait que ça durerait un peu plus de 15 jours. On applaudissait le personnel soignant aux fenêtres. Ah, c'était le bon temps. Un an plus tard, où en sommes-nous? On est passé de « nous sommes en guerre » à « nous sommes en galère ». Nous vivons notre 52e semaine décisive.
D'affilée.
D'affilée, oui. En moins de 24 heures, on nous a dit « il faut avoir confiance dans l'AstraZeneca », puis nous suspendons la vaccination de l'AstraZeneca. Et pour célébrer ce premier anniversaire, la question d'un nouveau confinement se pose, notamment en Île-de-France. Hier, à Montauban, Emmanuel Macron y a répondu comme d'habitude, sans détour, je le cite. Nous aurons sans doute, dans les jours qui viennent, de nouvelles décisions à prendre. Voyons positif, il y a une catégorie dans laquelle on assure dans cette crise où on bat tout le monde, c'est le ni oui ni non. On lamine les autres pays, les champions du monde. Ah ça, on est peut-être privé de cinéma, mais depuis des mois, on a droit à de belles bandes annonces de la part de l'exécutif, un thriller de torture psychologique. Il va peut-être y avoir de l'action. Il se pourrait bien que peut-être il se passe des choses. Vous n'êtes pas à l'abri d'être potentiellement surpris. Sorti un jour, peut-être demain, ou celui d'après, prochainement quoi. Ou peut-être pas, ça dépendra. Oh là là, depuis un an, je suis bloqué dans une relation toxique avec l'exécutif. Une sorte de belle phrase du style « des jours heureux reviendront ». Puis il me laisse dans le vent pendant des jours. Alors je m'inquiète, moi je comprends pas, je me dis qu'il s'en fout de nos cris de détresse. Puis il revient de me dire « je nous laisse une dernière chance. C'est compliqué, mais je sais où on va, t'inquiète. Ah, c'est pas toi, c'est moi, mais c'est encore un peu tôt ou trop tard, je sais plus. Alors j'essaie de prendre du recul, de la distance, mais c'est plus fort que moi. Je replonge à chaque fois. Dès qu'il m'appelle à 20h ou le jeudi à 18h, je regarde, je réponds. Ça s'appelle de la perversion narcissique. J'ai lu ça dans Biba. Bref, bon anniversaire, le confinement. Allez, pour fêter ça, ça me fait plaisir. Ce midi, je vous invite tous au restaurant. Oh, allez, tous en boîte de nuit. Et non, allez, tous à la maison à 18h, une tisane et au lit. Car oui, nous fêtons également aujourd'hui les deux mois de couvre-feu à 18h. Quelle semaine de fiesta!
La touche à tous les matins à 7h46 sur Europe 1. Merci Bertrand Chamerois. Quelle imitation de Joe Dassin aussi. Je ne la redemande pas.
Non.
Peut-être l'aurons-nous un jour ou l'autre à nouveau dans la matinale.
Avec plaisir.
On vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel. Il est 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
Delphine de Vigan publie « Les enfants sont rois » chez Gallimard. Un roman, une intrigue policière et une description sans phare du phénomène de starification des enfants sur YouTube. Ils font des millions de vues, qui rapportent des dizaines de milliers d'euros dans des vidéos qui sont bien souvent de la publicité, qui ne dit pas son nom. Droit à l'image de l'enfant, travail des mineurs, quelle valeur est-ce que cela véhicule aussi? Des questions que pose mon invité ce matin, Delphine de Vigan.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Delphine de Vigan, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors ce phénomène que vous décrivez, que vous racontez, on en parle ce matin. Mais pour dire les choses clairement, vous lancez une alerte?
Oui, en quelque sorte, à travers avec mes petits moyens, à travers le roman. Mais oui, le roman pointe une réalité que je trouve inquiétante.
Du séisme Lost Story, il y a 20 ans, vous parlez même d'appel d'air, de l'avènement de la télé-réalité à l'éclosion de ces enfants stars, de Loana, si j'ose dire, à Ryan Kaji, ce Texan de 9 ans, youtubeur le mieux rémunéré ces 3 dernières années. Il y a une filiation, ce sont les enfants des gamins qui ingurgitaient le loft il y a 20 ans.
En tout cas, il me semble qu'il y a eu une révolution dans nos codes de l'image, à la fois d'ailleurs avec la télé-réalité, le téléachat, et que tous ces codes, on les retrouve aujourd'hui sur YouTube, à travers les influenceurs et à travers les enfants influenceurs, bien sûr.
Mélanie, votre personnage, c'est la maman de Kimi et Samy. Elle a fait de ses enfants des stars de YouTube avec leur chaîne Happy Récré. Le roman s'articule ensuite autour de l'enlèvement de la fillette Kimi. Alors, si on peut alerter, si on peut s'indigner, dans le roman, vous n'êtes jamais dans le jugement.
J'ai essayé de ne pas l'être, en effet, parce qu'il me semblait plus intéressant d'essayer de comprendre, en fait, ce phénomène, à la fois, d'ailleurs, dans sa dimension intime, familiale, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se jouer dans une famille, qu'est-ce qui peut se jouer pour ses parents lorsqu'ils mettent en scène, lorsqu'ils exposent, ils surexposent à ce point leurs enfants, mais aussi qu'est-ce qui se joue, ce qui se joue dans l'époque. Et voilà, mon propos, c'était de tenter d'établir des liens entre tout ça et de comprendre plutôt que de juger.
Ces enfants stars sur YouTube, de quoi parle-t-on ? Par exemple, de Calice et Athéna, le studio Bubble Tea, 1 700 000 abonnés, ça ce sont des Françaises. On écoute un tout petit extrait.
Ça, c'est moyen frère, ça, c'est petit frère, et ça, c'est petit frère.
Ok, et qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains qui nous regardent, Calice ?
Au revoir.
Et surtout,
abonnez-vous.
Et laissez un petit
commentaire.
Et des petits pouces.
C'est le papa, leur papa, qu'on entend et qui produit ces émissions YouTube de Calice et Athéna. Au tout début du livre, vous convoquez Stephen King et je cite « Nous avons eu l'occasion de changer le monde et nous avons préféré le téléachat ». C'est ça, c'est la rencontre de la télé-réalité et du téléachat que vous décrivez.
Oui, il me semble, parce qu'effectivement, voilà, tout cet univers en fait qui est totalement dédié à la consommation, à la profusion, à une forme, au placement de produits, à une forme de publicité qui ne se déguise même plus. J'ai envie de vous dire, ressemble furieusement au téléachat que nous avons pu voir à la télévision il y a quelques années. Sauf que peut-être la différence, c'est qu'aujourd'hui tout ça est géré à l'intérieur de la famille. Il y a plus besoin d'un tiers, il y a plus besoin d'un partenaire extérieur. En tout cas, il n'est pas visible, il n'est pas présent. On donne l'illusion comme ça d'une chaîne familiale à travers différents scénarios qui passent à la fois par le déballage de cadeaux, les recherches de produits dans les supermarchés, la dégustation et la comparaison de différents produits. Voilà toutes sortes de petits scénarios un peu ludiques, mais voilà, au fond, effectivement, ces enfants sont transformés un peu en enfant sandwich qui ne cesse de faire la promotion de produits divers et variés.
Et puis oui, il y a cet univers, vous le décrivez, hein, ces couleurs fluo, cette espèce de truc un peu sucré, quoi, une injonction au bonheur, au sourire, à la bonne humeur. C'est plus de la télé-réalité, hein, on vend une image factice de la famille.
Bien sûr, c'est une forme de fiction d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est une injonction permanente au bonheur, à la perfection, une sorte d'image idéalisée de la famille parfaite. Mais la famille parfaite, c'est la famille qui consomme. C'est en fait toutes les valeurs qui sont derrière ces vidéos. C'est avant tout des valeurs de consommation, de possession, comme s'il suffisait finalement d'obtenir cette profusion, de posséder tout pour être heureux. C'est un peu ça que ça nous raconte.
Et c'est vrai qu'il faut se préoccuper de ses enfants, c'est bien normal, mais Delphine de Vigan, ce matin, il faudrait peut-être aussi parler du public spectateur de ces vidéos. Parce que quand on dit des millions de vues comme ça, ce dont on parle, ce sont des enfants aussi qui sont gavés par cette publicité. C'est un sujet, non ?
Bien sûr, c'est un sujet, c'est une question que se pose Clara, l'enquêtrice qui travaille sur cette disparition.
Oui, c'est vous,
on
Clara,
sait qu'il y a plus de
2
millions, il y a plus de 2 millions de vues par jour en fait faites par des enfants, enfin faites par des vidéos qui mettent en scène des enfants de moins de 12 ans. Donc c'est énorme.
Et Clara, cette policière parfois un peu naïve, parfois un peu candide face au phénomène et face à cette maman qui produit la chaîne YouTube de ses enfants. Clara, c'est vous?
Ça peut être un double, c'est un peu un double de moi-même. Oui, en tout cas, elle découvre cet univers que je ne connaissais pas non plus avant de le découvrir. Et c'est un petit peu à travers elle que j'ai posé toutes les questions que me posait ce phénomène. C'est-à-dire aussi, par moment, est-ce que finalement c'est pas moi qui suis en décalage par rapport à l'époque ? Est-ce que est-ce qu'il faut, jusqu'où faut-il s'indigner ? Jusqu'où faut-il légiférer, etc. Toutes ces questions, c'est elle qui les pose, mais c'est des questions évidemment que je me suis posées.
Notre époque est celle de l'exhibition, dites-vous aussi. Et vous estimez, Delphine de Vigan, qu'on va aller vers de vrais débats sur le droit à l'image, l'identité numérique que l'on fabrique à ces petits, le casier numérique qu'ils auront à vie. Vous dites, des enfants se retourneront contre les parents qui les ont exposés trop tôt.
Oui, enfin, en tout cas, on sait que c'est un des scénarios possibles par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, cette surexposition quand même qui est très très impressionnante des très jeunes enfants sur les réseaux sociaux et bon, notamment sur YouTube avec des enjeux commerciaux majeurs, vous l'avez dit. Oui, on sait que probablement, dans certains cas, arrivés à la majorité, des enfants pourront se retourner contre leurs parents pour avoir aussi exposé des images parfois dégradantes, humiliantes, qu'ils n'auront pas très envie de voir quand ils entreront dans l'adolescence ou quand ils entreront dans l'âge adulte. En fait, la vraie question, c'est cette question du droit à l'image de l'enfant. Est-ce que les parents sont propriétaires du droit à l'image de leurs enfants ou est-ce qu'ils en sont les protecteurs? Normalement, ils devraient en être les protecteurs. En l'occurrence, on peut bien sûr se poser la question.
Et puis, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Je ne voudrais pas raconter le livre, évidemment, mais on va... envisager la suite pour ces enfants devenus adultes dans un futur très très proche, ce que ça implique d'être filmé en permanence. Les enfants sont rois. Il y a des documentaires, des articles de presse, des débats politiques sur le sujet. Il y a même eu un envoyé spécial qui a inspiré une loi. Là, il y a cette vision ce matin, romancée, cette intrigue. Vous posez ces questions avec votre plume. Les enfants sont rois chez Gallimard. Merci Delphine de Vigan.
Merci à vous.
Il est 7h51 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et à suivre l'édito politique, Nicolas Bétou, avant de retrouver Nicolas Canteloup. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h53. Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
On saura jeudi si la vaccination avec le produit AstraZeneca peut reprendre en France.
C'est vraiment le pire anniversaire qu'on pouvait imaginer. Il y a un an, jour pour jour, Emmanuel Macron annonçait que la France allait s'arrêter, être confiné. Je précise qu'à l'époque, il n'avait pas prononcé le mot. Bon, depuis, on a tout vécu, tout traversé, y compris les épisodes les plus déprimants, jusqu'à la découverte du vaccin. Et cet exploit technologique et industriel incroyable, découvrir en quelques mois seulement un vaccin d'une génération jusqu'alors inconnue, cet exploit nous avait redonné de l'espoir.
Et c'est tout ça qui est au moins en partie suspendu?
Exactement. Et c'est un coup dur pour la stratégie des Européens et des Français en particulier, pour Emmanuel Macron aussi, et puis bien sûr pour le moral de tous.
Pour les Européens et les Français.
Oui, on verra bien ce que décidera l'Agence européenne du médicament, mais il est évident que ce qui s'est produit depuis quelques jours et qui s'est brutalement accéléré hier, eh bien ça casse une dynamique du redressement dans l'espace où l'AstraZeneca était le plus présent, c'est-à-dire en Europe. Le doute qui s'est installé sur les effets secondaires de ce vaccin s'est propagé dans les têtes, exactement comme un virus. Il a entraîné un pays après l'autre à suspendre les injections au nom du principe de précaution. Alors, c'était évidemment impossible pour les gouvernements de résister à cette montée du doute, en France comme ailleurs. Et le problème qui se pose maintenant sera d'évaluer, en cas de remise sur le marché, comment les gens vont se comporter. Dans un pays qui avait déjà frappé par sa méfiance vis-à-vis du vaccin en général, comment est-ce que l'éventuel retour des doses AstraZeneca sera vécu? Bon, probablement mal.
D'où le problème que ça pose à Emmanuel Macron.
Bien sûr, le chef de l'État a basé toute sa stratégie sur deux axes, le non-reconfinement et l'accélération de la vaccination. Le premier ne tenait dans le temps que si le second se réalisait, que si le nombre des personnes vaccinées progressait rapidement. Bon, si les doses AstraZeneca viennent à manquer, ou si les candidats pour en recevoir se font rares, ou pire encore, s'il n'est plus autorisé ce vaccin, alors toute l'équation du président devient, malgré lui, plus hasardeuse.
Emmanuel Macron annonce déjà de nouvelles décisions dans les jours qui viennent.
Oui, c'est toujours la question d'un confinement qui pourrait s'abattre cette fois sur la région parisienne. Emmanuel Macron pouvait jusque-là espérer commencer à capitaliser politiquement sur son refus de reconfiner. Alors devra-t-il un an après le prononcer pour l'Île-de-France, ce fameux mot confinement? Oui, vraiment, c'est un mauvais anniversaire.
16 mars, rendez-vous compte, ces 52 semaines écoulées, nous en parlions avec Bertrand Chameroy aussi. Merci Nicolas Bétou, votre édito tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h, Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tout de suite, Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sonia va bien sûr lui parler de la suspension du vaccin AstraZeneca. Et c'est Emmanuel Macron qui est venu dire un mot au professeur Combe.
Oui, bonjour Monsieur Bétou, bonjour Monsieur Béliard.
Bonjour Monsieur le Président.
Alors, ça y est, l'Europe est en panique parce qu'il y a trois Allemandes qui ont eu des varices.
Non mais franchement.
Oh là 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 là, comme c'est inhabituel. Hein, c'est pas que si on voyait ça dans toutes les piscines des campings en Ardèche, franchement. Hein, j'en savonne parce que ça m'agace. À la limite, les Allemandes qui sont bizarres, c'est celles qui n'en ont pas des varices. Voilà. Hein, franchement, ils ne sont jamais contents, les Français. Monsieur Bétou le sait. Si je n'avais pas suspendu le AstraZeneca, on aurait dit que je mets les Français en danger. Ouais. Et en le suspendant, on va dire aussi que je mets les Français en danger. Ouais. Voilà, donc la bonne combine, mais se prendre de suspendre 24 heures. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, jeudi, on va reprendre.
De grands noms de la médecine vous demandent de reconfiner. C'est le cas d'Axel Kahn, de Gilbert Deray. Mais vous continuez à repousser cette idée ?
Oh putain. Mais ils font quoi, Axel Kahn et Gilbert Deray ? Hein, des touillages dans des éprouvettes ? Super. Moi, je fais président. Et président, c'est au-dessus de monsieur Éprouvette, ok ? Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les scientifiques, je les écoute, c'est juste qu'après, je fais ce que je veux, voilà. Hein, on ne me regarde pas comme ça, monsieur Béliard. Hein, vous faites tout ce que vous dites, Jimmy Mohamed ? Non, eh bien moi vrai. Non plus, voilà.
C'est pas faux. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup, d'énoncer comme ça sur le fil à la fin. 7h57, on retrouve Nicolas Canteloup pour la revue de presse à 8h45 et le professeur Eric Combe à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Il est 7h57. Europe 1. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous bien sûr pour la météo.
À retenir pour aujourd'hui, des giboulées, un zeste de giboulées sur l'Alsace, le Mâconnais, la Franche-Comté, les Alpes du Nord, les Cévennes et autour de Lyon. Dans le sud-ouest, des éclaircies, près de la Méditerranée, du vent avec un ciel clair. Sur le nord, la Picardie, Champagne-Ardenne, sur la Lorraine, la région parisienne, le Berry et le Morvan, des pluies, mais des petites pluies, et des bourrines sur la Normandie, le Poitou-Charentes et le Massif central. Température maximale entre 10 et 15 degrés, c'est un peu comme hier, mais attention. Ça va baisser.
Merci Laurent Cabrol. On garde les pulls sous la main pour la suite de la semaine. Très bon réveil sur Europe
Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
Installez-vous à l'écoute d'Europe 1. On écoute le monde changer.